Les colloques du Collège de France.
Bien, nous terminons notre matinée si riche en donnant la parole à Sophie Guermès qui nous parlera de bonne foi au troisième degré. On est tous curieux de savoir quel est ce troisième degré. Sophie Guermès est professeure à l'Université de Brest et elle vient d'organiser dans cette université, justement le 23 et 24 juin, le colloque « Que ce monde demeure ». Donc voilà encore une citation de Bonnefoy. Et je ne citerai que quelques-uns de ses volumes. « L'écho du dedans », essai sur la route des Flandres de Claude Simon. « La poésie moderne », essai sur le Dieu caché. Ou alors « La religion de Zola ». Et son grand complément, la fable documentaire Zola historien, et cette année même, les spirales de l'intime, essai sur la modification. Modification, bien sûr, c'est le livre de Michel Butor, et ceci me permet d'ajouter qu'il est juste d'évoquer Michel Butor, parce que dans la correspondance, il y a des lettres émouvantes d'Yves Bonnefoy à Butor, notamment quand Butor, je crois qu'il s'était connu à Nice, quand Butor lui envoie l'emploi du temps et vraiment Bonnefoy lui écrit. Vous voyez, il y avait un vrai souci de comment interpréter le monde dans sa complexité. Et là, on a le dialogue de deux grands penseurs et amis. Je vous donne la parole.
Je vous remercie de votre invitation. Et aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour Claude Garrache, qui a quitté ce monde il y a quelques semaines. Alors, le 8 mars 1961, Jean-Pierre Richard écrivit à Georges Poulet à propos d'un texte repris peu après dans 11 études sur la poésie moderne. J'ai fait un Yves Bonnefoy que je vais proposer à critique. J'ai peur que ce ne soit moins une étude qu'une assez libre paraphrase. L'ennui d'ailleurs avec Bonnefoy, c'est qu'il se charge d'être son propre critique et qu'il est difficile avec un écrivain vivant et admiré de se placer au troisième degré qui serait alors nécessaire. Autre ennui plus grave, dont m'a rendu conscient une heure de conversation avec lui et dont je vous reparlerai, l'impression que notre critique, qui est une description de l'expérience intérieure et donc fondée sur celui qui pense ou qui éprouve, passe un peu à côté de ce que propose le créateur lui-même, soucieux, lui, des buts de cette expérience. J'ai donc retenu pour titre et fil conducteur de cette communication, qui portera sur les proses critiques, les essais d'Yves Bonnefoy, l'expression au troisième degré, qui semblait à Jean-Pierre Richard la perspective la plus souhaitable, mais difficile à atteindre s'agissant d'un écrivain vivant et admiré. Si Bonnefoy est toujours et à juste titre admiré, il n'est malheureusement plus vivant. Ce qui facilite, si l'on suit la logique de Jean-Pierre Richard, le passage au troisième degré, le premier étant celui de la critique telle qu'il l'a pratiquée, mais aussi plus généralement de la critique provenant d'autrui, le deuxième, celui du créateur, se chargeant d'être son propre critique. Se placer au troisième degré impliquerait de faire la synthèse des deux et de s'autoriser à juger le travail critique de l'auteur sur lui-même et sur d'autres, la mort de cet auteur rendant possible cet inventaire. Le juger ou, plus modestement, l'observer, avec le recul nécessaire, porter sur cette œuvre désormais achevée un regard neuf. Dans l'enquête que je présente aujourd'hui, j'ai privilégié un aspect en apportant d'emblée une légère correction aux propos de Jean-Pierre Richard. Il plaçait, avec raison, sa critique et celle de Georges Poulet sur le plan de l'expérience intérieure. Mais Yves Bonnefoy lui-même, en tant que critique et auteur d'essais, n'a jamais fait autre chose, qu'il s'agisse de parler de lui-même ou des poètes et artistes qu'il admirait et qu'il aimait. L'unité se forme, la présence surgit qui est coprésence, quand les mots perdent leur capacité conceptuelle, quand ils ne décrivent plus, qu'ils n'expliquent plus. Telle est la fonction de la poésie selon Bonnefoy. Or, l'écriture de l'essai est forcée de décrire, d'expliquer, de préciser, d'argumenter, de clarifier, donc de se rapprocher des concepts. Dès lors, les essais peuvent-ils constituer le prolongement de ces hypothèses sur la vie que sont les poèmes ? Il me semble que oui. Par quels moyens ? Par l'expression de la subjectivité, qui passe aussi bien par l'usage de la première personne que par l'écriture propre à Bonnefoy, avec ses rythmes, sa matière sonore, ses choix de ponctuation. Je prends garde de rappeler que Bonnefoy a distingué le « je » du « moi », celui-ci étant superficiel. Il a donc défendu le « je » contre le « moi ». Aussi bien dans « Lieu et destin de l'image » que dans l'imaginaire métaphysique, il a reconnu que son approche des œuvres s'éloignait de la rigueur dont faisaient preuve notamment ses collègues du Collège de France. Quelle que soit mon inclination pour la sorte de précision que les historiens apportent, l'écrivain que je suis, incapable de s'effacer dans cela même qu'il étudie, n'a pas eu pour autant la prétention de se placer sur le même plan que ses chercheurs. Ou encore à propos de sa découverte de l'art italien, si j'aimais la fréquentation des spécialistes, la même où ils se vouent aux recherches les plus étroitement resserrées, je négligeais leur rappel pourtant légitime au devoir d'être patiemment exhaustif, résolument objectif. Je ne suis pas un scholar, et si je respecte et même chéris la discipline historique, j'ai toujours su que je ne serais parmi ses représentants rien d'autre qu'un écrivain, sauf en quelques cas, il est vrai, mais qui sont restés exceptionnels. Évoquant dans un autre essai Émile Berthaud, s'effaçant derrière les monuments qu'il avait catalogués et analysés dans sa thèse parue en 1903, « L'art dans l'Italie méridionale », il emploie précisément le mot « degré », en remarquant que le texte des deux premiers volumes de cette thèse, c'est-à-dire le texte sans les illustrations, relève d'un constat méthodique, du discours au degré des simples faits historiques et stylistiques. Bonnefoy, lui, ne peut s'en tenir à ce degré-là. Il a surtout cherché à poser la question de la poésie en témoin de sa propre époque. Il a témoigné d'une mémoire, celle de l'histoire de la poésie et de l'art, tout en l'inscrivant dans sa propre temporalité d'être vivant au XXe siècle et au début du XXIe. De même, il a affirmé la nécessité de traduire dans sa langue, c'est-à-dire en évitant les archaïsmes. Il a justifié son approche critique, reconnaissant qu'il se hasardait souvent hors de l'espace du vérifiable, mais qu'il se plaçait dans un rapport de créateur à créateur, de destin à destin. L'intuition, l'empathie, le faisait aller droit, immédiatement, à l'essentiel. Comme les mystiques dont il m'avait parlé la première fois que je suis venue le voir dans son bureau du Collège de France, en soulignant qu'il se passait d'intermédiaire et en m'encourageant à les lire. Il a toutefois précisé, dans un entretien repris dans l'Inachevable, cette différence essentielle. Consciente de l'immédiat, soucieuse du plein engagement de la pensée dans la finitude, l'intuition qui est à l'origine de la poésie pourrait, certes, suivre cette voie jusqu'au cœur de l'expérience mystique qui a ce même souci et le porte aussi loin que possible. Mais quand pour ce faire la mystique quitte les mots, la poésie se retourne vers eux tout au contraire et sacrifie son objet profond, ou du moins son espoir d'y vraiment atteindre, afin de préserver le rapport à l'autre, le lien social. S'arrachant au silence en même temps qu'il en arrachait les œuvres dont il s'occupait, c'est ainsi, guidé par le souci de l'autre, qu'il est parvenu à atteindre dans chaque essai ce qu'il appelait le plus intime d'une œuvre. Car, je le cite encore, « sans affection, l'admiration s'appauvrit et le savoir est aveugle ». Cette expression de l'affection, émanation de la subjectivité, permet de contrer l'idéologie, qui est à l'opposé de la poésie, mais aussi plus généralement une utilisation du langage qui prendrait les êtres et les objets par le dehors et manquerait ainsi leur vérité qui gît en profondeur. Il n'envisageait pas autrement, là encore, sa tâche de traducteur. On ne doit traduire que les poètes que l'on aime parce qu'on les comprend, qu'on a suffisamment d'empathie pour refaire le chemin qu'ils ont fait. Mais, pourrait-on ajouter, lire est déjà refaire le chemin. On ne lit, et surtout on ne continue à lire, que des auteurs avec lesquels on a décidé de marcher, c'est-à-dire dont on veut explorer l'œuvre du début à la fin pour tenter d'en discerner les étapes et d'en comprendre l'évolution. Et regarder une œuvre d'art procède du même long dialogue, même s'il s'agit, et l'on rejoint alors une forme de mystique, d'un dialogue à voix tue. En 2007, Bonnefoy affirmait « Écrivant sur Goya, je ne parlerai pas de Goya, je parlerai avec lui. » Et il ajoutait « Espérons que j'entendrai, que je comprendrai sa réponse. » L'essai est donc un appel. Bonnefoy a aussi employé l'expression « regarder par les yeux de Vermeer » et soutenait que l'écriture ne laisse rien au dehors de soi et que l'œuvre étudiée n'était pas devant l'écriture mais dans ses plis. En 1976, il avait employé le mot « sympathie », qu'il considérait comme la connaissance en son acte. Me plaçant au troisième degré, je ne cherche pas à décrire la façon dont Bonnefoy essayiste a abordé tel ou tel poète ou à réfléchir sur sa propre œuvre. Cela a déjà été fait souvent par de grands spécialistes, de Jérôme Tellot à Michel Finck, en passant par Daniel Lançon et d'autres. J'interroge la manière dont il a abordé une œuvre, une écriture, pardon, qui pouvait à tout moment le reconduire à l'enfermement dans les concepts et la façon dont il a évité cet empiègement, pour employer l'un de ses termes. Et je vais tenter de montrer que si Bonnefoy essayiste a marqué sa différence avec ses collègues universitaires qu'il désignait comme historiens, c'est-à-dire dans son esprit comme spécialiste d'une période ou d'un sujet précis d'étude et ayant une connaissance globale de leur discipline, il ne s'est pas éloigné tant que cela des historiens quand il s'est fait lui-même celui des formes poétiques et artistiques. L'un de ses premiers textes critiques d'art fut le compte-rendu d'un essai sur Fra Angelico de Giulio Carlo Argan. Et celui-ci, Argan, va m'aider à justifier mon positionnement au troisième degré, consistant à relativiser la différence marquée par Bonnefoy entre lui-même essayiste et ses collègues spécialistes de tel ou tel domaine. Le hasard fait bien les choses, puisque, en bonne disciple d'Yves Bonnefoy, je parle de ceux pour qui j'ai admiration et affection, et de fait, Giulio Carlo Argan est l'un des intellectuels dont l'œuvre m'impressionne le plus. Historien d'art qui alliait une immense érudition à une approche philosophique des formes, qu'il s'agisse d'architecture ou de peinture, et ce, de l'art de l'Antiquité grecque à celui de la seconde moitié du XXe siècle. Voici donc l'extrait d'un texte où, commençant par rendre hommage à son maître Lionello Venturi, dont pour mémoire la fille avait épousé Albert Schirra, Argan rappelait d'une part la nécessité d'avoir une connaissance précise et continue des apports critiques successifs, l'un des points sur lesquels Bonnefoy avoue se distinguer de ceux qu'il appelle les historiens, mais d'autre part où Argan soutenait que seul le rapport au présent importait vraiment. Position qui rejoint totalement celle de Bonnefoy, qu'il s'agisse de sa réflexion sur la poésie, l'art ou la traduction, et position qui implique la subjectivité. L'historien d'art, comme l'a expliqué Lionello Venturi, ne peut faire abstraction de la tradition critique. Ce que l'histoire de la critique démontre, cependant, n'est pas du tout l'absolu et la pérennité de la valeur, mais son retour continuel, de façon toujours diverse, dans le hic et nunc de conscience conditionnée de manière différente par les mutations et les développements de la culture. Quelle que soit son ancienneté, l'œuvre d'art se donne toujours comme quelque chose qui arrive au présent. Ce que nous appelons des jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont en réalité actes de choix, prise de position. Confrontés à un événement qui se produit, nous ne pouvons en faire abstraction et prononcer des jugements sereins et détachés. Nous devons décider d'y prêter ou non attention, accepter ou refuser. Et ce qu'on accepte ou refuse est en réalité la coexistence avec l'œuvre, laquelle est physiquement présente. Et bien qu'appartenant au passé, elle occupe une portion de notre espace et de notre temps réel. Nous n'avons pas d'alternative. C'est un fait, une donnée de notre existence. Indubitablement, l'œuvre d'art n'a pas la même valeur pour nous que pour l'artiste qui l'a faite et pour les hommes de son temps. L'œuvre est toujours la même, mais les consciences changent. La perception marque toujours et seulement le temps de l'absolu présent. Argan, et je le cite de nouveau, relie le jugement de valeur non à la dimension sans temporalité de la pensée abstraite, mais au présent absolu de la perception. Pour cette raison, ce jugement n'a pas du tout lieu, comme cela devrait être le cas s'il s'agissait vraiment d'un jugement, au début d'un processus d'analyse et de réflexion. Il se produit à l'instant même de la perception ou de l'assimilation de l'œuvre. Et donc ce n'est pas le moment conclusif, mais le moment initial de l'opération historiographique. L'œuvre d'art, en somme, se rend présente dans le présent absolu de la conscience qui la reçoit. Et ce présent absolu ne finit pas dans le passé, parce qu'il en vient. Donc Argan affirme la présence de l'œuvre dans le présent absolu de la conscience, son hic et nunc, comme l'écrivait Bonnefoy lui-même, qui a aussi employé dans l'acte et le lieu de la poésie l'expression présent absolu. Argan souligne que l'œuvre, depuis sa création ou sa publication, ne change pas. Elle traverse les siècles pour arriver sous les yeux de l'historien, qui dès lors est confronté à un choix, celui de l'interpréter ou non. Or, à partir du moment où il y a acceptation ou refus, pour des motivations diverses, conscientes ou inconscientes, mais toujours personnelles, liées à l'intérêt, au passé, aux émotions, il y a expression de la subjectivité et décision. Mot que Bonnefoy a employé dès le début, lui aussi. La décision est le titre du troisième chapitre du livre sur Rimbaud en 1961. Il figure encore dans le titre de l'un de ses derniers essais, L'hésitation d'Hamlet et la décision de Shakespeare. Et quand Argan pose l'alternative de l'acceptation ou du refus, il annonce le propos de Bonnefoy que j'ai déjà cité. Je me suis toujours accordé le droit de choisir, voire de méconnaître. On se souvient de cette question dans La présence et l'image, sa leçon inaugurale. Que faire pour qu'il y ait quelque sens encore à dire je ? Cette subjectivité dont il ne peut se défaire, il s'en excuse, je l'ai rappelé, auprès de ses collègues, même s'il les justifie, s'il la justifie. Or, ce qu'on pourrait, se plaçant au troisième degré, lui objecter, c'est que l'effacement n'est pas le propre de l'historien, en tout cas pas de ceux qui ont refusé de réduire leur tâche à celle d'un chroniqueur. Qu'il est donc lui aussi un historien, ce qu'il savait plus ou moins d'ailleurs, puisque, relatant à la fin de l'arrière-pays un projet de récit sur le sentiment inconnu, il reconnaissait « l'historien, c'était moi ». Et déjà, s'adressant en 1959 dans Dévotion au peintre de l'école de Rimini, il écrivait « J'ai voulu être historien par angoisse de votre gloire ». D'Hérodote à Quinet, en passant par Michelet et Renan, les trois derniers ayant été ses prédécesseurs au Collège de France, on constate une affirmation de la subjectivité qui n'était pas incompatible avec la valeur scientifique de leurs écrits. Et Bonnefoy lui-même a établi le lien entre l'évolution de l'écriture de l'histoire et l'acheminement vers une poésie de plus en plus consciente d'elle-même. Dans la poétique au Collège de France, il a évoqué les cours d'Henri Charles Puech sur la phénoménologie de la gnose auquel il a assisté très jeune. Un grand chercheur dégagé là, de la masse des intuitions la veille encore oubliée d'obscures sectes alexandrines, un schème qui me paraissait valoir pour l'interprétation de la poésie la plus moderne. Et de ce fait, dès lors, je me sentis chez moi, au moins pour écouter, pour prendre mesure de mes lacunes, dans cette maison, dont je savais que nombre des titulaires de chaire, depuis Michelet en tout cas, avaient contribué à ce renouvellement de la connaissance historique, qui va donc de pair avec tout progrès dans la pensée de la poésie. Quand j'ai publié en 2017 la fable documentaire, j'avais placé en épigraphe une phrase d'Yves Bonnefoy. Les fibres et les nœuds de l'histoire ont pris la place du vertige métaphysique. Bonnefoy a été particulièrement attentif au siècle qui a suivi la Révolution française, siècle de la mort de Dieu, qui vit à la fois la naissance de l'histoire moderne, de l'art moderne et de la poésie moderne. Il a notamment exercé son intuition sur Nerval, Baudelaire, Rimbaud, puis Mallarmé. Le relais de la métaphysique par l'histoire s'est intensifié à ses yeux après la Seconde Guerre mondiale, et sur ce point, je renvoie aussi à la préface du siècle où la parole a été victime. Après Auschwitz, a-t-il déclaré dans un entretien, la syncope des signifiés métaphysiques qui a suivi la mise en place de ceux des sciences n'a pas été contredite par les événements de l'histoire, c'est le moins que l'on puisse dire. Or, c'est précisément après Auschwitz qu'il a commencé à publier et à faire ce qu'il a appelé l'expérience de l'évidence. Évidence, intuition, il n'a cessé d'employer depuis l'écriture de ses premiers essais ces deux mots, et pour le second, non pas au sens vague, mais au sens étymologique du terme. Ex videre, intueri, dans les deux cas, il s'agit de voir. La méthode intuitive passe en général pour surhumaine, orgueilleuse, mystérieuse, et l'on croit que la méthode discursive est humaine, modeste, claire et distincte, scientifique. Je démontrerai au contraire un jour qu'en histoire, c'est la méthode intuitive qui est humaine, modeste, claire et distincte, autant que nous le pouvons, scientifique. C'est Peggy qui a écrit ces lignes, mais il me semble qu'on peut les appliquer à bonne foi. Voir est un acte premier qui implique évidemment la subjectivité. Le regard est, selon Bonnefoy, un appel qui monte de profond en nous. Faisant allusion à Plotin, il a écrit « Il faudrait se souvenir de la pensée antique, si vraie, qui concevait que le regard va à l'objet pour lui donner sa couleur, sa forme, quand nous, modernes, ne doutons pas que l'œil n'est que ce qui reçoit le rayon lumineux chargé d'informations sur les choses dont il nous vient. » Au commencement, pour Bonnefoy, il y a eu la vue. Et cette scène, qu'on pourrait aussi dire primitive, elle a lieu à Tours, un jour de mai 1936. Je vis de loin ma mère sur le seuil, et je fus saisie, je courus. Oui, c'était moi qu'elle attendait, et tout de suite, « Il faut que tu voies », me dit-elle. Elle me prit par la main, elle me mena, s'était à l'étage dans la chambre. La mère a jugé essentiel que le fils soit témoin du père mort. Aucune description, aucun commentaire ne s'ensuit, si ce n'est à la fin de la section suivante de l'écharpe rouge, ce devoir christique et déjà ce processus d'intériorisation. J'avais à le plaindre, à souffrir pour lui, avec lui. Quelques années auparavant, il y avait eu, cette fois-ci à Thoirac, une autre vision, celle-là spontanée, sans injonction. Une rencontre avec un arbre en particulier, et le même mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Il était là, en se maintenant. Il aurait pu ne pas y être, bien pu ne pas avoir vie. Un jour, il ne serait plus. Et sa présence était donc à vivre comme une énigme, voire un mystère, qu'il m'était demandé de laisser retentir au plus profond de moi, substituant au regard sur la simple chose un qui sondrait un abîme de par-dessous l'apparence. Déjà, il affirmait au début de l'arrière-pays vouloir exister, mais autrement qu'à la surface des choses. C'est cette logique du regard allant de l'extérieur vers l'intérieur qui Bonnefoy a adoptée dans ses proses critiques, d'où la multiplication, accrue au tournant des années 2000, des tournures par-dessous, par-en-dessous, de l'expression au plus intime d'eux. Observer une œuvre ou la lire attentivement, ce n'est pas l'effleurer du regard, mais y plonger son regard. Les essais qui en procèdent surgissent eux aussi des grandes profondeurs. Je rapproche cette remarque que je viens de faire d'un extrait des notes qui ont composé, longtemps après la mort de Michel de Certeau, le second volume de la Fable mystique. Pour exprimer l'intensité de l'expérience visuelle chez Nicolas de Cuse, il faudrait parler d'une combinaison entre l'observation et l'intuition. L'une est développée en une quête insatiable, captée par toutes sortes de curiosités quotidiennes, tout comme par tant de régions traversées ou par l'innombrable des livres et des archives. L'intuition, au contraire, est concentrée en l'évidence de vue de l'esprit, visus mentis. Ces deux formes du voir s'entrecroisent constamment. Elles ont pour point de coïncidence la figure visible ou le regard saisi, l'invisible qui s'y meut. Deux paradigmes peuvent rendre compte de la recherche de Bonnefoy inlassablement menée dans les soubassements du langage. Celui de l'archéologue, auquel il s'était identifié enfant en lisant « Dans les sables rouges », texte évoqué dans l'arrière-pays, puis dans « L'écharpe rouge », qui en propose une nouvelle lecture approfondie, et celui du plongeur, par lequel il définissait plus précisément sa tâche de traducteur, mais dont on peut étendre l'action, c'est-à-dire la descente, au travail sur l'histoire des formes, puisque cette analogie était déjà présente au début de l'arrière-pays. Voici les propos qu'il tenait en 1993. Une langue est un paysage superbe du fond des mers. L'œil de l'esprit peut y contempler l'harmonie, la solennité des montagnes dans la demi-lumière du gouffre. Le corps de l'esprit, merveilleusement détendu, peut nager dans ces vallées étroites ou larges, et tout cela nous repose. Par l'heure harassée de la langue usuelle, on sent que l'on va respirer mieux. Pour ma part, c'est dans les moments de fatigue que j'éprouve le plus le besoin de m'asseoir à ma table de traducteur. Au passage, on remarque que l'écriture des proses critiques ne se distingue pas de l'écriture des poèmes. On pourrait faire l'analyse de cet extrait sur le même modèle que l'analyse d'un poème. Plus généralement, on pourrait étudier l'intrusion du poétique dans l'essai par le biais de l'image, du rythme, de la syntaxe, et ce, dès les premières pages ferventes des tombeaux de Ravenne. Et justement, dans « Perambulans in noctem », poème qui clôt le dernier recueil « Ensemble encore », il a repris l'analogie du plongeur, mais avec plus d'inquiétude. Le fait de descendre par palier, par degrés, et de questionner de ses yeux et de tout son être l'immensité noire, peut s'étendre aux autres explorations que celles d'une langue dite étrangère, explorations qui ont toutes été l'objet d'essais d'Yves Bonnefoy. Lorsqu'il est venu à l'université de Brest, il avait émis un souhait, celui de visiter un sous-marin, souhait qui fut exaucé. Et dans un entretien accordé en 1997, il a affirmé la nécessité de descendre en soi autant que le poète ou le peintre qu'on étudie et de rester au contact de cette intériorité. Déjà, dans l'une des magnifiques lettres adressées à Boris de Schleuser, il formulait le désir de laisser le champ libre au niveau le plus profond, définissant toute parole de poésie comme un forage. Le regard du poète essayiste va donc droit et loin. Cette intuition, ce regard qui va directement à l'intérieur, qui atteint la vérité, vérité de parole, vérité de l'être, fait abstraction du savoir livresque, en tout cas le suspend. Le trop-plein d'érudition pourrait obstruer la vue, le regard porté au présent sur la chose présente, sur l'œuvre présente. La docte ignorance devient grâce. Ne pas comprendre permet de voir, écrit Bonnefoy dans la stratégie de l'énigme à propos de la flagellation du Christ de Piero della Francesca, qui a suscité de multiples interprétations, dont il retrace l'essentiel en historien qui toujours s'ignorait partiellement et à laquelle il a ajouté la sienne très personnelle. Une fois qu'il a vu, il peut transmettre ses découvertes, son intuition, les offrir en partage aux autres. La patience prend le relais de la fulgurance sans l'annuler. Il passe alors par la médiation du langage et pour faire barrage à l'abstraction, aux généralités, à la pensée conceptuelle, il emploie cette première personne qu'il a toujours défendue. Et l'on s'aperçoit que, depuis les tombeaux de Ravenne, il a, dans ses proses critiques, retracé l'histoire de ce qu'il a appelé, plus tard, la conscience de soi de la poésie, c'est-à-dire de la lutte contre le conceptuel. Il l'a rarement, c'est vrai, mené chronologiquement. Le plus souvent, il en a saisi des moments, s'arrêter à un moment de l'histoire. C'est ainsi que commence Rome 1630, moment qui rend l'ensemble de ses essais très cohérent et porteur d'une continuité, celle d'une conversation menée à travers les siècles. Il a donc rassemblé des artistes aimés avec lesquels il a maintenu cette conversation dans un même lieu, le champ de l'essai. Dans ces artistes, il décelait des préoccupations qui faisaient écho aux siennes, ce qu'il a désigné comme l'évidence de la poésie dans les œuvres. Se tournant vers le passé, sans cesser de s'affirmer en tant que sujet présent, Bonnefoy a pris soin de distinguer nettement la présence du contemporain. Il faut rompre le cercle de l'obsession du contemporain si l'on veut ne pas perdre la vérité qui naît du dialogue des esprits à travers les siècles. Et d'autre part, il a tout autant écrit des proses critiques pour envisager le futur. Cela faisait partie des buts de son expérience, pour réemployer une expression de Jean-Pierre Richard. Et puisque, Ensemble encore, le dernier recueil pose la question du legs, puisque l'écharpe rouge est dédiée à Mathilde, fille d'Yves et de Lucie. Jamais auparavant, Yves Bonnefoy n'avait dédié un de ses livres, si ce n'est, pour l'un d'entre eux, à l'improbable. Je terminerai en me demandant ce que nous lèguent ces proses critiques, ce qu'elles nous donnent à méditer pour le XXIe siècle. Yves Bonnefoy n'a pas attendu la fin de sa vie pour se préoccuper du futur. On peut lire, par exemple, dans l'Analogie suprême, en 1978, « Que va être l'avenir ?» L'avenir, cette urgence toujours accrue, dont la poésie moderne, et ce serait presque là sa définition la plus spécifique, depuis Hölderlin, depuis Mallarmé et Rimbaud, se préoccupe d'une façon si constante. Nous avons bien des raisons de n'en attendre à moyen terme que le désastre. Mais c'est un fait aussi que nous détenons en chacun de nous, parmi nos archétypes les plus profondément enfouis, l'image de cette lueur qui paraît à l'est au plus profond de la nuit. C'est la raison pour laquelle, même s'il reconnaissait ne pas se faire grande illusion sur ce qui attend la civilisation ou ce qu'il en reste, il rejetait malgré tout pessimisme et désespoir. Et déjà, l'acte et le lieu de la poésie, on le sait, s'ouvrait sur le souhait de réunir, d'identifier presque la poésie et l'espoir. Cette préoccupation venait en fait de bien plus loin. En 1998, après avoir évoqué d'effrayants ouvrages où la violence et la science-fiction se mêlaient, lus dans le grenier de son grand-père à Toirac, il ajoutait « Je leur dus beaucoup de mauvais rêves. Je compris que la fonction de la poésie était de se dégager de ces turpitudes. J'avais, après ces tristes lectures, le plus grand besoin de la présence sensible pour effacer en moi leurs fantasmes nés au crépuscule d'une société d'Occident. J'avais à me convaincre que cette folie, qu'aujourd'hui je peux m'expliquer par des siècles de principes moraux pervers ou l'abstraction inhérente à la parole moderne, pouvait être transcendée, effacée, guérie par l'évidence du monde. Qu'il y avait dans cette dernière une leçon de paix, de sérénité, de transparence dans la lumière à laquelle il fallait absolument se prêter, sinon l'humanité allait à sa perte et moi avec. » Yves Bonnefoy, soucieux de bâtir un peu de sens collectif qui préserve l'évidence du monde, a lutté contre plusieurs adversaires qu'on pourrait subsumer sous les catégories de l'absence ou de l'oubli de l'être, l'abstraction, la fragmentation, l'idéologie, la mécanisation, l'utilitarisme, l'égoïsme. Il évoquait toute une partie de l'histoire de la traduction comme une tradition altruiste. Or, l'altruisme, j'ai rappelé tout à l'heure son souci de l'autre, apparaît chez lui comme une préoccupation majeure. Il s'agit de rassembler les artistes soucieux de préserver des valeurs fondamentales, mais aussi de former une communauté de lecteurs animés du même souci. Cette préservation a donc lieu dans l'usage qu'on peut faire des mots. Ainsi, lorsque Bonnefoy dénonce le tourisme de masse, il rejette d'emblée, je le cite, ces formules creuses et arrogantes, stéréotypes qui sont bien de notre Occident, hélas, dont la brochure publicitaire, cette parole de personne à propos de rien, est une des inventions spécifiques avec ses tendances au génocide. Un mot, celui-ci, qui n'est pas même excessif. Tant il est vrai que quand il envahit des nations économiquement sans ressources, politiquement déstructurées, le texte touristique peut contraindre les habitants de ces lieux à se voir de par le dehors d'eux-mêmes, à se raconter comme le désir, la paresse des arrivants, à substituer à leurs intuitions et leurs souvenirs les dessins bariolés qu'il faut à des visiteurs décontenancés ou hilares. Et quant aux nations puissantes de notre époque, celles qui sont moins atteintes, moins indécemment visitables que les plus pauvres, elles parlent toutes dorénavant la même langue, à peu près celle de la technologie, du commerce, ce qui leur fait refouler dans le passé, un passé travesti et simplifié, ce qui autrefois donnait sens à leurs différences. Autochtones caricaturés, perte des fondements de leur civilisation, mais aussi naufrage des spécificités culturelles dans la globalisation, en dénonçant tous ces mots, Yves Bonnefoy a fait acte politique et on pourrait le dire aussi écologique. Plus généralement, par l'ensemble de son œuvre, il aura tenté de réparer, verbe primordial pour lui, ce qui était déchiré, défait, de chercher, et je cite ici l'écharpe rouge, à faire fleurir dans chaque vie le souvenir de sa finitude, lui demander d'aimer son irréductible hasard, un programme qui est tout autant celui d'une rénovation de la société. Merci.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.